RCFM. France Bleu. RCFM, Christine Allouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans Les Experts, c'est Christine Allouzi. Je suis ravie d'être avec vous ce matin encore. On va parler ce matin de médecine esthétique. Et bien oui, ça ne se résume plus au traitement des rides. La médecine esthétique, c'est devenu un art, celui de transformer un équilibre imparfait en équilibre parfait. On va parler de ça avec le docteur James Skinazi. Toute l'équipe est là avec moi, bien sûr. Nathalie au standard, Jean-Michel à la technique. Et puis vous, bien sûr, 04 95 32 22 22. Vous nous appelez pour poser toutes vos questions ou même pour témoigner. C'est toujours bien d'avoir des petits témoignages. Alors, je compte sur vous. À tout à l'heure.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Allouzi.
À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. C'est l'argent sous la tasse. C'est levé, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour.
RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Allouzi.
La médecine esthétique permet toujours de lisser un front ou les rides de la patte d'oie lorsque la peau commence à se relâcher, mais elle donne aussi désormais la possibilité de se libérer d'un complexe ou d'apporter le petit supplément d'harmonie qui donne confiance en soi. Une bosse sur le nez, des joues trop creuses, un double menton. La nouvelle médecine esthétique propose des solutions embellissantes, non chirurgicales. On en parle ce matin avec notre expert, le docteur James Skinazi, qui est médecin morphologue et anti-âge à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et puis vous, bien sûr, hein, nos auditeurs, 04 95 32 22 22, vous nous appelez pour vous poser toutes vos questions à notre expert du jour et vous continuez à nous envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. On va rentrer vite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de questions. Je disais en intro, la médecine esthétique, ça se résume plus, docteur, au traitement uniquement des rides. Hein, c'est devenu un art.
Eh oui, c'est tout le but de notre médecine aujourd'hui. C'est une médecine qui doit se voir sans trop se voir.
Voilà. Alors moi, je vous ai contacté, je vous ai découvert surtout grâce à notre amie commune Valérie Orsogne. On lui fait un petit coucou, elle nous écoute des fois. Elle ne jure que par vous. Hein. Elle vient exprès.
Je crois qu'elle nous écoute. Je l'ai vu. J'ai eu un petit message de sa part.
Oh, moi aussi. Elle vient d'aller exprès hein, de Californie parce qu'il n'y a que vous qui êtes autorisé à toucher son visage. Parenthèse fermée. Coucou Valérie, si tu nous écoutes. Et j'ai découvert vraiment sur les réseaux sociaux que vous faisiez des miracles. J'ai envie de dire parce que. Toutes celles aujourd'hui qui ont un complexe sur leur nez, je les invite à aller consulter votre Instagram. Elles vont halluciner parce que celles qui n'ont pas envie vraiment de passer par la case chirurgie, eh bien aujourd'hui en 30 minutes, on peut modifier la forme de son nez. Je voudrais qu'on parle d'abord de ça, docteur, la rhinoplastie médicale.
Oui, alors la rhinoplastie médicale, c'est une technique qui est une technique alternative à la rhinoplastie chirurgicale traditionnelle. Le but, c'est pas de remplacer la chirurgie et de dire qu'on va avoir exactement le même résultat qu'en chirurgie, puisqu'en chirurgie, on va retirer de la masse, de l'os, du cartilage, on va faire des greffes, etc., quelque chose de beaucoup plus lourd avec des chutes beaucoup plus lourdes. En médecine esthétique, en fait, on va essayer de camoufler, de faire un espèce de trompe-l'œil en modifiant les angles au niveau du nez pour le rendre plus harmonieux de profil et mieux l'intégrer dans le visage. Parce que le nez, comme tout le monde sait, c'est la personnalité et la crainte actuelle qui a toujours été au niveau du nez, c'est quand on se fait opérer, on a peur de changer un petit peu de forme du visage, de personnalité et de caractère.
Ça change,
donc,
hein,
là, voilà. Là, l'intérêt, c'est que justement, c'est quelque chose qui va permettre de rendre la personne moins complexée ou plus du tout complexée. Après, c'est éphémère puisque ce sont des injections avec des produits qui sont résorbables, mais donc avec des suites qui sont ultra légères. Ça peut être un petit bleu, un petit gonflement, mais généralement rien de plus.
Donc on a en fait
tout notre intérêt.
On a en fait un résultat immédiat et qui est pas définitif. Oui. Donc voilà, et quelque chose que vous pouvez résorber si demain ça convient pas à la patiente. C'est ça aussi qui est important.
Exactement.
On peut revenir en arrière.
Puis, même dans le temps, se résorbe tout seul. C'est-à-dire que la première fois, ça va tenir autour de 6 mois. Les fois suivantes, autour d'une année.
D'accord. Donc voilà, il y a quand même ça tient quand même à pas mal de temps. Donc on a vite fait de comparer la seringue à la baguette magique, mais on prend conscience qu'on améliore et qu'on ne transforme pas avec la rhinoplastie médicale.
Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a quelques cas qui sont très bluffants parce que quand une pointe de nez est très tombante et qu'on arrive à la rendre plus droite, voire remonter vers le haut, c'est quelque chose d'assez bluffant. Même moi, au départ, quand je me suis formé, j'y croyais pas tellement. Mais en fait, avec le pouvoir des acides hyaluroniques aujourd'hui qu'on a, qui ont une forte cohésivité, c'est-à-dire un fort pouvoir de projection, on arrive vraiment à modifier ces angles et à avoir des vraies transformations.
Donc moi, j'ai vu ça sur vos réseaux sociaux, c'est quand même impressionnant, les avant-après, franchement, c'est bluffant, quoi.
Non, c'est un des actes que je préfère faire au cabinet actuellement.
Et qui est beaucoup demandé aussi.
Exactement.
Je le disais, la médecine esthétique, elle peut aussi faire des choses que la chirurgie n'est pas en mesure d'offrir. Hein, je pense notamment à améliorer la qualité de la peau, docteur Skinazi.
Oui, bien sûr. En fait, on est complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir la prétention de remplacer la chirurgie comme la chirurgie n'aura pas la prétention de remplacer la médecine esthétique. Les deux sont vraiment complémentaires. Et souvent, quand j'ai des patients qui viennent me voir pour un devis, qui sont assez marqués parce qu'elles n'ont jamais rien fait de leur vie et qu'elles veulent se prendre en main parce qu'elles passent le cap de la retraite ou parce qu'elles ont eu des événements dans leur vie et des expositions solaires qui font qu'elles sont assez marquées, je connais les limites de la médecine esthétique. Et ce que je propose aux patientes, c'est d'abord consulter un chirurgien pour, si jamais elles sont prêtes à le faire, des traitements chirurgicaux un peu plus lourds. Et après, derrière, d'améliorer la qualité de la peau, une fois que le traitement chirurgical est fait à distance, améliorer la qualité de la peau avec des traitements type laser, type mésothérapie, type peeling, etc., ou injection.
Donc ça, ce sont des femmes qui viennent vraiment pour un rajeunissement, mais vous avez aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, vous avez une patientèle de plus en plus jeune.
Oui, mais ça c'est les effets des réseaux sociaux justement et de tout ce qu'on voit avec ce qui se passe aux États-Unis, la génération de plus en plus jeune qui veut prendre soin de sa peau, être de plus en plus belle, mais avec des stéréotypes qu'il faut essayer de casser un petit peu parce que c'est notre rôle de médecin. On n'est pas des commerçants, donc le but, c'est pas du tout d'aller dire oui, il faut faire à chaque fois qu'on vient nous voir. Moi, dans une journée, je vois peut-être une dizaine de personnes pour des devis et sur 10 devis, je pense qu'au moins 3-4 personnes sont récusées de tout traitement parce que soit elles sont trop jeunes, soit le profil psychologique n'est pas adapté, soit elles ont des demandes qui sont démesurées et qui ne correspondent pas à ce qu'on peut leur offrir et qui, pour moi, ne sont pas des réponses bienveillantes si on répond par la positive.
Des cas de dysmorphophobie aussi, un petit peu, entre de l'image
sûr,
de soi. Beaucoup.
Énormément. Oui, énormément. En fait, c'est le plus grand syndrome qu'on puisse observer aujourd'hui au cabinet, c'est ça, c'est la dysmorphophobie. En l'occurrence, quand on commence un traitement au niveau des lèvres et qu'il y a une surenchère entre copines et entre ce qu'elles voient à la télé, exemple de Fabi Kardashian, etc. En gros, elles font leur traitement des lèvres, elles ont l'impression au bout de 2 mois de plus rien à voir, alors que tout le monde leur dit que c'est déjà bien présent. Elles ont un volume, elles ont un contour dessiné, elles ont une lèvre bien pulpeuse, mais elles aimeraient toujours en avoir plus. Et en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont déjà du volume. Et bon, après, notre rôle à nous, c'est de freiner quand il faut freiner. Et puis surtout, d'un point de vue médico-légal, on a fait des photos préalables et ça nous permet vraiment de montrer aux patients de quel stade ils sont partis et quel stade ils en sont actuellement. Après, il y a toute une discussion qui va avoir lieu avec le patient. Et ça, le plus important, c'est vraiment de prendre en compte ses attentes et surtout à nous d'être le plus bienveillant possible.
Et puis aussi qu'il y a quelques années, la médecine esthétique, c'était un petit peu tabou. Hein. Aujourd'hui, les femmes, elles sont complètement décomplexées sur le sujet. Elles connaissent les techniques et elles savent vraiment ce qu'elles peuvent en attendre. Il y a ça aussi.
Alors, il y a ça. Il y a beaucoup d'informations justement via les réseaux sociaux, via les sites internet, etc. Mais il y a aussi le fait que il y a l'exemple encore de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans en France, on avait un vrai tabou sur la médecine esthétique. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, mais ça l'est quand même pour la population au-delà des millénials, c'est-à-dire au-delà de 30-35 ans. Elles vont moins en parler autour d'elles de façon ouverte comme une jeune de 20 ans. Mais ça reste quelque chose de plus, on va dire, libéré aujourd'hui, parce qu'on est sur des produits qui sont beaucoup plus sécuritaires, on parle que de produits résorbables, on est sur des techniques de moins en moins invasives, et donc c'est dans l'esprit du jour, c'est-à-dire que on veut pouvoir faire ses traitements entre midi et deux dans sa pause déjeuner, pouvoir reprendre son activité le lendemain matin, etc.
Et juste avoir l'air en bonne forme et ne pas dire qu'on est passé.
Voilà, exactement.
Même si on voit beaucoup de filles qui sont fières hein, de sortir de votre cabinet, qui se prennent en photo et qui vous taguent en disant
ouais,
on est sorti.
On leur demande rien, mais c'est vrai que c'est un peu comme un trophée. Aujourd'hui, moi, les réseaux sociaux, ça me sert en fait de lien.
Oui, parce que vous ne faites pas de pub. Hein. On rappelle que vous êtes médecin, il n'y a pas de publicité. Hein. C'est vraiment.
Oui, alors c'est vraiment un long débat, mais en fait, moi. Bon, le rôle principal des réseaux sociaux, c'est de pouvoir être proche de mes patientes et de pouvoir répondre de façon plus facile que la méthode traditionnelle, qu'on passe par un secrétariat, on attend qu'on nous rappelle, on attend qu'on nous réponde, on envoie un mail. Ça prend du temps. Les réseaux sociaux, à 22h, on a eu un bleu suite à une injection le matin ou l'après-midi.
Ça
on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'on peut mettre du froid, du chaud, etc., prendre tel médicament, on a mal à la tête, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une interaction? Allô, docteur. Bonjour, docteur. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux faire telle chose? Je réponds en instantané, quasiment tous les jours, quasiment tout le temps.
Donc, et ça rassure donc, aussi les patients. Hein.
Exactement.
Et puis aussi, donc après, je rebondis sur ce que vous dites, docteur, parce qu'il y a aussi beaucoup de dérives dans la médecine esthétique. On va en parler. Hein. Et c'est aussi rassurant, je trouve, personnellement, je trouve que ça serait rassurant si demain je devais faire quelque chose, de pouvoir voir ce que le médecin fait, parce qu'on a quand même des horreurs des fois. Donc c'est en soi aussi une sécurité, j'ai envie de dire.
Oui, c'est pour ça qu'on est là, pour répondre à toutes ces questions. Très important.
Alors, de plus en plus de femmes aussi font appel, on a parlé du nez, mais elles font appel aussi à la chirurgie ou à la médecine esthétique également pour retrouver des pommettes slaves, les pommettes au perché.
Oui. Alors certaines n'en auront jamais, parce que justement, elles n'ont jamais eu. Si elles en ont déjà eu, pourquoi pas? On peut essayer de restaurer un certain volume. Par contre, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que, en l'absence de chirurgie lourde, transformer un visage par injection, à moins d'être un médecin fou, ce que je ne pense pas être, je préconiserai jamais de transformer un visage de façon importante. Par contre, rehausser un visage pour travailler sur l'ovale, pour travailler sur les contours, pour travailler sur les jeux d'ombre et de lumière sur le visage, c'est intéressant.
Alors maintenant, comment ça se passe si on veut justement retrouver ces pommettes un petit peu hautes et saillantes, si on peut les avoir, hein, si vous jugez que c'est possible, alors, comment ça se passe?
En fait, moi j'explique toujours aux patientes que ce qui va créer du volume, c'est d'abord le support, c'est-à-dire les fondations qu'on a dans notre visage. Et nos fondations, c'est quoi? C'est l'os. On n'est jamais symétrique de base, la structure osseuse n'est pas symétrique, Et ce qui va permettre de soutenir en fait la pommette, ça va être la projection osseuse pour la pommette, ça va être les dents au niveau des lèvres, ça va être les angles mandibulaires au niveau de l'ovale du visage. Donc si on a une bonne structure des os qui sont déjà bien marqués et assez proéminents, on va pouvoir travailler de façon plus intéressante sur les volumes et sur les contours et la tension de la peau. Après, il faut prendre en compte le fait qu'on prenne en charge une patiente relativement tôt et pas de façon trop tardive, parce qu'après le relâchement est trop important. Mais en gros, on va toujours travailler du haut du visage vers le bas du visage pour mettre, si on doit mettre des quantités relativement importantes d'acide hyaluronique ou de produits de comblement type radiesse, etc. L'idée, c'est de toujours travailler vers le haut pour avoir un effet tenseur, rehausser le visage et en mettre le moins possible sur le bas du visage pour plutôt créer un effet de traction et d'hydratation et de luminosité plutôt que d'alourdir à long terme avec des produits de comblement à répétition sur le bas du visage. Mais ça n'empêche pas qu'on utilisera des produits plus fins sur le bas du visage pour aller diminuer des petites ridules superficielles, combler certains creux disgracieux.
On va continuer à parler des injections. 04 95 32 22 22 si vous voulez intervenir, témoigner ou poser vos questions au docteur James Kinasi. Bien sûr sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Di l'amore non sabia se un fu sonno a di chi ubbio tu doni via e budi un rapo a di chi forza lontano cesi tu
Charles Martilez a dit sur RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Luzzi.
On parle médecine esthétique ce matin dans Les Experts avec le docteur James Kinasi, médecin morphologue et anti-âge à Paris. Vous nous envoyez des messages sur nos réseaux sociaux, je vais les passer, vous inquiétez pas, on avance un petit peu dans l'émission. On va en poser une, tenez, puisqu'on parlait des injections. Il y a Marilène qui nous dit « Acide hyaluronique Botox, entre les deux, mon cœur balance ». Alors, on fait pas les mêmes choses avec l'acide hyaluronique et avec le Botox, hein, on va expliquer.
Non. Alors en fait, c'est deux entités complètement différentes. L'acide hyaluronique, c'est un produit, on va dire naturel, qui est un produit de comblement. À la base, c'est un sucre qu'on va configurer en usine pour, en fonction de la taille des molécules, pour soit simplement hydrater la peau, Et après, si on part sur des molécules un petit peu plus grosses d'acide hyaluronique, on va être sur du comblement réel de rides et de creux, voire des projections quand on est sur des plus grosses molécules. Pour ce qui est de la toxine botulique, en fait, on va s'attaquer à tout ce qui va être rides d'expression en rapport avec justement la mimique. Et là, on va surtout travailler sur des zones supérieures du visage. C'est à ce moment-là, votre médecin, il vous traitera en toxine botulique sur tout ce qui est rides frontales, rides de la glabelle, c'est-à-dire rides du lion, et rides de la patte d'oie, les petites rides qu'on a autour des yeux quand on fait un sourire et que ça plisse, soit de façon statique, soit de façon dynamique, soit les deux. Et donc, c'est vraiment deux traitements qui sont complémentaires. L'un n'empêche pas l'autre, mais l'un ne remplace pas l'autre.
Voilà, donc pour rajeunir un visage, redonner du volume, estomper des rides, on va peut-être aller plus
sur
l'acide hyaluronique. Et le Botox, ça va vraiment être... on fige, quoi, quelque part, avec le Botox.
Oui, alors c'est une expression que j'aime pas trop entendre, parce que figer, c'est alors que le visage n'a plus aucune expression, mais quand vous êtes traité par les bonnes personnes en toxine botulique, moi, les résultats que je vois... c'est des résultats qui restent tout à fait acceptables et au contraire naturels, parce qu'il faut garder l'expression du visage.
Enfin, on fige, je me suis mal exprimé. On fige, je dirais, le muscle, en fait,
on le décontracte.
Voilà, on décontracte le muscle.
Des involontaires qui font qu'on peut avoir un regard un petit peu fatigué ou un regard un petit peu énervé alors qu'on ne l'est pas. Classiquement, la demande du patient, c'est tout le monde m'a dit que je fais la tête. Pourquoi, alors que je fais pas la tête, je suis pas malheureuse. Et ben, il y a peut-être des techniques qui vont pouvoir améliorer, sans pour autant que ça se voit réellement.
Francine nous dit, n'y a-t-il pas des risques à s'injecter toutes ces choses dans le visage?
Alors, c'est des risques comme tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traverse la rue, on marche, on a un risque. Aujourd'hui, quand on passe chez un médecin, et je précise bien chez un médecin, quand on va voir un médecin, on va d'abord réaliser tout un, on va dire, un interrogatoire médical scrupuleux, vraiment structuré, où on va voir les antécédents médicaux, s'il y a des contre-indications aux injections, en l'occurrence pour l'acide hyaluronique, on est sur toutes les maladies auto-immunes évolutives, genre thyroïdite d'Hashimoto, maladie de Basedow, les lupus, toutes les maladies auto-immunes que les gens généralement savent qu'ils ont quand ils les ont. Ça, c'est des contre-indications qui font qu'on n'injectera jamais d'acide hyaluronique, parce que le produit risque d'être rejeté, comme la personne a une maladie auto-immune, elle rejette en fait son propre corps. Ça peut être la thyroïde, ça peut être des articulations, ça peut être plein de choses. Mais on considère que le risque est trop important par rapport aux bénéfices de l'acide hyaluronique. Et donc là, on n'injecte pas de corps étranger sous la peau dans ce cas de figure. Par contre, on explique toujours aux patients l'intérêt de procéder à de telles injections. Et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui des produits qui sont 100% résorbables. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, il n'y a plus du tout de produits sous la peau si on a décidé de plus renouveler, et on ne s'aggrave pas, on a simplement ralenti le vieillissement. Après, encore une fois, c'est une question de balance bénéfice-risque à chaque fois. Mais on est sur des produits qui sont très très sécuritaires et de plus en plus sécuritaires aujourd'hui, avec toutes les normes qu'on est obligé de préconiser.
On a assez de recul aujourd'hui, justement, pour parler de ces produits.
Ah bah, on a plus d'une trentaine d'années, donc oui.
C'est suffisant, mais surtout, je suis pas médecin, c'est pour ça que je vous pose question.
Largement, et puis il y a les études continuent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé, ça évolue toujours, on vient toujours nous proposer de nouveaux traitements. Alors moi, je fais partie de cette catégorie, même si je suis jeune médecin, je fais partie de cette catégorie de médecins qui ne veulent pas sauter sur les nouveaux traitements qui viennent de sortir. Je vais d'abord laisser voir ce qui se passe, parce que souvent on les voit passer une année et puis ils disparaissent, parce que soit absence d'efficacité, soit effet secondaire important, pas forcément grave, mais des suites un peu lourdes comme des œdèmes pendant quelques semaines, etc. après certains traitements. Je parle pas de l'acide hyaluronique, mais quand on essaie de développer d'autres techniques de comblement, etc., ce genre de choses, des fois ça peut être un petit peu gênant pour le patient. Donc moi, il est hors de question que mes patients soient mes cobayes.
Donc vous faites prendre aucun risque et vous travaillez vraiment avec des produits que vous connaissez. C'est important.
Exactement.
Je rebondis sur ce que vous disiez, j'ai noté, vous précisez chez un médecin. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui injectent. Alors...
En fait, il y a une dérive. On parlait de l'avantage des réseaux sociaux avec le côté proximité et réponse instantanée. Il y a aussi les réseaux sociaux qui profitent aujourd'hui à des personnes qui ne sont pas médecins. Alors parfois, elles s'improvisent médecins, mais elles ne le précisent pas. Parfois, elles sont infirmières. D'autres fois, elles sont rien du tout. Elles ont simplement été fouillées sur des tutoriels qu'on peut trouver facilement sur YouTube ou d'autres sites de vidéos en ligne. Et puis elles se sont procurées des produits sur Internet, alors parfois de contrefaçon, parfois des produits qu'elles pensent être des bons produits et qui n'en sont pas. et d'autres fois, je passe les détails, mais en gros, oui, il y a des personnes aujourd'hui qui développent via les réseaux sociaux des activités
absolument illégales, on le rappelle,
hein. Sans être médicales, qui sont absolument illégales. Alors moi, je juge pas la personne qui va avoir recours à ce type de soins. Je mets juste en garde mes patientes et les personnes qui ont envie d'avoir recours à ça, que c'est pas une question d'économie à faire. Oui, ça coûte cher la médecine esthétique. C'est une médecine qui n'est pas obligatoire. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention. La plupart du temps, il ne se passera rien, même si vous êtes traité par des personnes qui ne sont pas médecins. Mais quand il se passe quelque chose, ça peut être très, 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 très grave.
Mais on va le dire. Si par exemple, il y a une injection d'acide hyaluronique qui est faite, par exemple, dans le nerf facial, on peut perdre la vue, quoi.
On peut perdre la vue, on peut perdre la sensibilité, on peut être défiguré, on peut être nécrosé, on peut perdre une partie de son visage par nécrose, la pointe du nez. Enfin, il y a des choses qui sont très graves et qui ont été vues, quoi. Et puis les infections derrière qui peuvent se généraliser, à la fois sur le visage, qui est la première chose qu'on voit. Donc quand on subit ce type de réaction, je dis pas que ça n'existe pas chez les médecins, parce que tout, encore une fois, il y a toujours.
Oui, le risque zéro n'existe pas, on est d'accord. Mais enfin bon.
Vous êtes dans une structure médicale. Aujourd'hui, nous, on s'est beaucoup appelé par des patients qui ont fait des traitements à l'extérieur. Moi je suis pas le type de médecin qui va aller gronder la personne qui a fait ses injections, etc., mais la personne qui les fait. Mais vraiment, moi, c'est avant tout une mise en garde. Je ne ferai pas prendre ce risque à mes amis ou à ma famille, donc je ne le ferai pas prendre à mes patients.
On a une autre question de Sabine qui nous dit « Est-ce qu'on peut faire peau neuve avec un peeling ?»
Oui et non. Alors, le peeling, il faut savoir qu'il y a trois grands types de peeling, si on doit évaluer comme ça. En gros, il y a le peeling très superficiel, qui va être un peeling qu'on appelle coup d'éclat, qui n'a pas de suite, qui est à prévoir au niveau de la peau, qui est simplement un peeling qui va permettre un petit peu d'aller purifier la peau, d'aller lui faire resserrer un petit peu les pores de façon transitoire, d'aller donner un petit peu d'éclat. Ça, c'est le peeling le plus superficiel qui se fait entre deux rendez-vous sans aucun problème et qui n'entraîne aucune élection sociale. Après, le peeling moyen, c'est un peeling qu'on appelle acide trichloracétique. Le premier, c'était aux acides de fruits. Le deuxième, c'est le TCA, c'est de l'acide trichloracétique avec des dosages qui vont être un petit peu plus importants, qui vont permettre d'aborder des couches un peu plus profondes de la peau et qui vont entraîner en fait des désquamations plus ou moins importantes en fonction du dosage et du nombre d'applications des peelings.
Et je vous propose juste, docteur, on va parler du troisième peeling juste après. On a la météo et le journal qui suivent. Et Sabine, on répond à votre question. On va parler, continuer à parler de peeling juste après la pause. Hein, si ça vous va. Allez, à tout de suite.
Spécial foot sur Via Steel du 4 au 10 novembre. Toute la semaine, portrait de joueur par Eric Cantona dans Les Rebelles du foot. Documentaire sur les supporters de la Juf dans Ragazzi di Stadio. Du GFCA dans L'odeur du gaz. Du SCB dans Simudu Tidurkin. Jeudi 7 novembre, cinéma avec l'arbitre des Paolo Zouk et le magazine Cinema Paradiso. Enfin, Agora, débat foot et identité dimanche 10 novembre. Vibrez pour le sport le plus populaire au monde sur Via Steel du 4 au 10 novembre. Plus d'infos sur corse.france3.fr.
Jeudi 14 novembre, l'association Les Diabétiques de Corse vous invite à la 5e édition du Salon du Diabète à Porticcio. Dès 10h, rencontrez des professionnels en lien avec la maladie. Au programme, dépistage du diabète, atelier diététique et test de conditions physiques. À 19h, conférence débat avec le professeur Jean-Jacques Altman et le docteur Laetitia Kunstmann. La 5e édition du Salon du Diabète, c'est dès 10h le 14 novembre à la salle polyvalente de la mairie de Porticcio. Entrée gratuite. Informations sur lesdiabétiquesdecorse.com.
On a tendance à penser que pour être mieux protégé, il faut payer plus. C'est une erreur. Avec la nouvelle complémentaire santé solidaire, l'accès aux soins médicaux pour tous n'a jamais été aussi large, aussi simple et si peu coûteux. C'est un vrai progrès.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur amélie.fr pour faire une simulation ou appelez le 0800 971 391 du lundi au vendredi. L'assurance maladie. 0800 971 391, service et appel gratuit.
La météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et pour aujourd'hui, le ciel est bien nuageux avec des averses par endroits. La limite pluie neige se situe vers 2400 mètres tout le matin, puis elle peut s'abaisser jusqu'à 1850 mètres ensuite. En fin d'après-midi, les averses cessent et des éclaircies sont présentes. Le cumul de pluie peut atteindre 20 mm. En début de soirée, libetch ou violent dans le Cap Corse avec des rafales atteignant 130 km/h. Pour les températures, eh bien, les maximales de 17 à 20 degrés et 10 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, l'enquête sur le meurtre commis mi-septembre du militant nationaliste Maxime Souzigne, qui a entraîné la création de comités anti-mafia en Corse, a évolué et fait apparaître une action en bande organisée. L'enquête a évolué dans un sens qui permet maintenant de considérer que le dossier entre dans la compétence de la GIRS de Marseille, compétente en matière de grande criminalité organisée, ce qui n'était pas le cas à l'origine, a indiqué le procureur de la République d'Ajaccio, Eric Bouillard. Le transfert de ce dossier à la justice spécialisée marseillaise a été sollicité par le juge d'instruction ajaccien actuellement en charge de l'enquête, mais aussi par la GIRS elle-même. Suite du procès Chaussa, ce matin l'accusé doit être longuement interrogé par la cour d'assises d'Aix-en-Provence, où il comparaît depuis lundi dernier. Claude Chaussa est poursuivi pour assassinat en bande organisée. Il est jugé pour le meurtre de Richard Casanova en avril 2018 à Porto Vecchio. Hier, trois policiers en charge de l'enquête sur le meurtre ont déposé à la barre, notamment Bruno Boudet, ancien commandant de police à la direction centrale de la police judiciaire, chargé de la criminalité organisée, aujourd'hui à la retraite, le 17 décembre 2009, dans les locaux de la brigade criminelle de Marseille. C'est à lui que Claude Chaussa, poursuivi pour assassinat en bande organisée, a choisi de se confier. Tout ce que Chaussa a dit en garde à vue et que nous avons pu vérifier était vrai, a déclaré l'ancien policier. Rien de neuf à la poste de Bastia. Grévistes, CGT et direction ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur la réforme de la réorganisation de la distribution du courrier via un nouveau logiciel informatique. Aujourd'hui encore, les boîtes aux lettres de Bastia et du Cap resteront vides. La réforme de l'assurance chômage va-t-elle pénaliser les saisonniers ? En Corse, cette réforme semble divisée, syndicats et patrons. Une partie de la réforme est entrée en vigueur le 1er novembre. Avant, il fallait avoir travaillé 4 mois en CDD au cours des 28 derniers mois pour recharger ses droits à l'allocation chômage. Désormais, si vous n'avez pas travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois, vous risquez de perdre tout ou partie de vos indemnités. Selon les patrons, cela pourrait non pas précariser un peu plus les travailleurs, mais les inciter à chercher plus et à travailler plus. Les syndicats, eux, se disent inquiets sur les effets de cette réforme. En Corse, il faut savoir qu'environ un salarié sur 3 est saisonnier.
Merci Didier Arnoux. Prochain point sur l'actualité avec Jean Prounette, ça sera à 11h.
L'AUE, Agence d'aménagement d'urbanisme et d'énergie de la Corse, lance l'édition 2019 des Trophées Énergie. Particuliers, entreprises, collectivités, associations, vous êtes porteur d'un projet exemplaire dans le secteur des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie, de la qualité de l'air ou de la mobilité durable, candidatez pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Informazione condizione non ta a ou e punto corsica.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Madison Albrecht, à Saint-Avold, en Moselle, nous dit pourquoi.
Tous les matins, je m'endors parce que je prends la route à 5h30 le matin. Ça devenait vraiment trop. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter les lunettes Prudency pour aller au travail. Tout au début que je les mettais, je faisais semblant de m'endormir et elles bipent pas. En fait, elles font rien. Quand je m'endors vraiment, ça fonctionne. Donc c'est vrai que depuis que j'ai les lunettes, elles m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Je les quitterai plus. Hein.
Catherine Mayer, l'opticienne optique 2000 de Madame Albrecht à Saint-Avold.
Pour nous, c'est très important de proposer des produits de qualité et très innovants à nos clients, comme les lunettes connectées Prudency qui préviennent de l'endormissement au volant. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tout pour nos clients.
Alors Madame Albrecht, contente d'Optique 2000?
Oui, et en plus, ils ont tout géré pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
France Bleu, RCFM.
France Bleu. RCFM, Christine Alouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans les experts, on parle aujourd'hui de médecine esthétique. La médecine esthétique comprend un large panel de techniques non invasives qui permettent de traiter et de corriger les imperfections de la peau. Mais pas que. Aujourd'hui, avec moi, on va parler de ça avec le médecin, Dr James Kinasi, médecin morphologue et anti-âge à Paris. Médecine esthétique, ces gestes qui vont vous changer la vie. C'est notre dossier du jour. Vous n'hésitez pas à nous appeler, pour poser toutes vos questions. 04 95 32 22 22 ou bien sûr sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Vos questions, la réponse de nos experts sur RCFM.
Alors Sabine avait posé une question avant la pause, on a répondu partiellement, on a commencé par un peeling léger, un autre peeling un peu plus approfondi et un autre peeling, docteur, qui existe.
Oui, donc en fait on s'était arrêté en plein milieu du peeling moyen. Le peeling moyen, le but c'est en fait d'éclaircir un petit peu la peau et d'aller desquamer. Donc là il y a des suites un peu plus importantes, pendant 4-5 jours on va peler. Donc là, il faut s'organiser au niveau de la vie socio-professionnelle.
Donc on fait et ça après, pendant qu'on est en vacances, hein.
Non, et puis de toute façon, il faut faire attention au soleil dans le mois qui suit chaque séance. Donc, c'est quelque chose qui s'organise et qui se prépare. Pour le troisième peeling, c'est un peeling qu'on pratique pas au cabinet parce que c'est un peeling qui est trop lourd et c'est un peeling qu'on fait pas toutes les 5 minutes. C'est un peeling qu'on appelle peeling profond et là, on le réserve vraiment pour les peaux qui sont très très abîmées, soit par le soleil, soit parce qu'elles ont un fripé superficiel qui est assez important, soit parce qu'il y a des cicatrices d'acné très profondes et que là, la seule façon de traiter la peau de façon très remarquable et vraiment retrouver une peau de bébé vraiment peau neuve, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de faire ce qu'on appelle un peeling profond au phénol. Donc là, c'est des cils qui sont beaucoup plus lourdes, c'est une brûlure qui est contrôlée, mais qui doit vraiment, vraiment être suivie par le médecin spécialiste. C'est quelque chose qui est pratiqué en France par pas mal de dermatologues et de médecins esthétiques, mais encore une fois dans des structures qui doivent être vraiment adaptées. On fait pas ça.
On fait ça en clinique en fait, hein.
Non organisé. Ouais, moi je pense que c'est plus en clinique parce que la première nuit elle doit se passer à l'hôpital.
Ça va être super douloureux, non?
Alors c'est pas douloureux parce qu'on est assez insulté par les différents médicaments qu'on fait prendre et par la préparation de la peau. C'est pas douloureux, mais vraiment pendant un mois on n'est pas sortable quoi. Donc c'est quelque chose qu'on fait une seule fois dans sa vie et qui nous empêchera après d'aller au soleil. Donc pour nos amis corses, c'est un peu difficile.
Ah, une fois qu'on a fait spinning profond, on peut plus aller au soleil?
C'est vraiment pas recommandé. En tout cas, au moins les 2 premières années, c'est le genre de traitement qui nécessite une protection solaire vraiment très très importante et quotidienne.
D'accord. Au niveau, pour continuer à parler un petit peu de ces choses qui peuvent effacer, que ce soit des rides, des rougeurs, des taches, des cicatrices, il y a le laser aussi, docteur.
Oui, alors il y a différents lasers. Alors, les technologies sont hyper, hyper vastes. Encore ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaie de trouver des techniques qui soient le moins invasives possible. Donc, faut vraiment relativiser sur l'efficacité de ces machines. Il y en a qui sont beaucoup plus remarquables que d'autres. Mais ça part de la radiofréquence standard, c'est-à-dire une source de chaleur assez importante qui va essayer de stimuler la synthèse de collagène. Et ça peut aller un peu plus, de façon plus profonde avec de la radiofréquence qu'on appelle cette fois fractionnée, où on va créer des micro-puits à la surface de la peau pour essayer de stimuler de façon plus profonde la tension de la peau, comme après des lasers de resurfacing où on va créer une vraie abrasion de la peau, un peu comme un effet peeling, mais sans produit chimique sur la peau, mais non sans risque en termes de rebond pigmentaire et de cicatrisation. Donc c'est encore une fois des choses qui doivent être faites par des praticiens bien experts en la matière.
Justement, on voit fleurir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les boutiques en ligne, plein d'appareils comme ça qui vous promettent de rajeunir avec un petit appareil que vous allez vous passer le soir sur le visage. Attention quand même à ça aussi, docteur.
Oui, alors il faut faire attention. Déjà, quand elles m'en parlent au cabinet, est-ce qu'elles peuvent utiliser ces machines après les traitements, etc. Moi, je recommande toujours de les utiliser que vraiment à distance, c'est-à-dire 2-3 semaines après nos traitements pour pas aller dénaturer le produit ou le mobiliser, les produits qui ont été injectés. Pour ce qui est de l'efficacité de ces machines, alors j'ai pas d'expérience personnelle sur ces machines, je les ai pas toutes testées, donc je peux pas juger l'efficacité de chacune.
Maintenant, il y en a qui sont efficaces.
Je pense qu'on est plutôt dans la recherche du confort. C'est-à-dire que si l'acte en soi est confortable et qui permet de se sentir mieux, pourquoi pas? Maintenant, faut pas dépenser des sommes astronomiques pour utiliser ce type de traitement. Et après, il faut toujours essayer de voir la source des études qui ont été faites, qui ont été réalisées sur ces produits qui sont à la vente au grand public, parce que c'est comme quand vous allez dans les magasins connus d'électroménager et qu'on vous dit vous pouvez acheter une lampe flash qui va vous faire une épilation définitive.
Oui, c'est ça.
C'est le même principe. C'est des machines qui sont bridées, qui sont toutes petites, qui n'ont pas les puissances qu'on peut avoir dans un cabinet médical. Elles sont a priori pas néfastes, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Je vais dire plutôt que c'est des produits ou des techniques qui sont confort, qui peuvent permettre d'entretenir un petit peu les effets du temps, et puis qui peuvent convenir aussi à certaines personnes qui ne sont pas prêtes à passer par la case médecine ou chirurgie esthétique. Maintenant, toujours aller vérifier les sources avant de s'orienter, parce qu'on n'est pas dans le télé-shopping non plus. Quoi.
Oui, voilà, c'est ça, on a quand même... Parce que moi, je me pose quand même des questions. Des fois, on a des appareils, on voit ça, j'en voyais d'ailleurs en préparant cette émission, mais des appareils qui promettent de la radiofréquence à domicile, vous le disiez, c'est pas sans risque en cabinet. Je me pose quand même des questions. Est-ce que, par exemple, si on ne sait pas qu'on a un lymphome ou quelque chose, est-ce que ça ne peut pas le faire flamber? Enfin, j'en sais rien, j'extrapole peut-être,
parce que si vous achetez des machines qui sont avec des normes françaises, donc la norme CE et tout ce qui va avec. Et bien vraiment, vous achetez pas ça chez un vendeur de l'étranger sur un site internet, voilà. Normalement, quand c'est vendu par des commerçants de renom, le seul risque, on va dire, c'est l'inefficacité.
D'accord, c'est, on ne prend pas de risque.
Voilà. À part, encore une fois, si c'est des produits qui ont été achetés sur des réseaux parallèles qui ne correspondent pas aux normes françaises, parce qu'on a la chance quand même en France, et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour en revenir à tout ce qui est injection, etc., on fait rentrer sur le territoire français, en tout cas par des biais légaux, que des produits qui ont toutes les homologations et qui ne comportent pas de risque pour la population.
D'accord. Donc pas de risque. On peut utiliser, je pense notamment à la Wellbox. Donc ça, du coup, il n'y a pas du tout de radiofréquence ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment on masse le visage, donc on stimule un petit
Exactement.
Peu le collagène.
Exactement. Exactement, parce qu'il faut savoir que voilà, on n'est pas ubiquitaire. Le but, c'est pas de dire la médecine esthétique, c'est pour tout le monde. Et c'est pas du tout notre politique. C'est de dire que voilà, il y a des gens qui ont besoin de ce confort, de ce bien-être, et puis aussi de travailler sur la mimique pour justement diminuer certaines expressions. Et c'est des exercices qui peuvent se faire devant le miroir tous les jours, des massages de la peau, des soins qui peuvent se faire en institut par des professionnels habilités, qui peuvent aussi permettre d'adoucir les traits sans pour autant avoir recours à des techniques un peu plus invasives. Et puis après, il y a toute la stratégie des crèmes derrière, donc tout ce qui va être sérum, etc.
On va en parler de ça, parce qu'on a des questions justement là-dessus. Pour finir juste sur ces appareils, il y a le FaceTite aussi, vous connaissez ça, de Silkin. C'est un appareil anti-ride aussi. Il y a beaucoup de pubs qui est faite sur ce produit. Je crois que ça utilise la radiofréquence. Donc on ne prend pas de risque à utiliser ça si c'est acheté en France avec des normes françaises, on est d'accord.
Exactement.
Voilà. Vous parliez, je rebondis sur ce que vous dites, hein. Vous parliez des crèmes, des sérums. Est-ce que quand on met le prix dans une crème, quand on nous promet de l'acide hyaluronique dans une crème, est-ce que ça pénètre, docteur? Parce que c'est bien beau, mais est-ce que ça passe la barrière de la peau?
Eh ben, tout va dépendre de la crème. C'est pas une question de prix pour moi. C'est pas du tout l'idée d'acheter une crème chère, même si des fois ça rassure, comme quand on achète un bijou très cher, il est forcément plus beau et plus valeureux qu'un bijou un petit peu moins cher. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur le laboratoire. Il faut réfléchir sur les études qui ont été faites. Alors c'est pas le grand public qui va aller chercher les études scientifiques qui ont été menées. Quand c'est on ça. Regarde les petits astérix à la télé ou dans les magazines, des fois il y a marqué que ça a été étudié sur 10 personnes. Un panel de 10 personnes, c'est pas représentatif de la population générale. Pour le peu qu'on ait utilisé, qu'on ait traité qu'une population caucasienne avec une peau blanche, sans inflammation, sans rien. En fait, on n'est pas du tout représentatif de ce qui peut se passer dans la population générale. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que les actifs qui sont mis dans les produits qui sont destinés à la grande distribution, il y en a, mais c'est de très très faibles quantités. C'est-à-dire que il faut que ce soit toléré par le plus de personnes possible pour justement que le produit puisse se vendre. Là, je parle en termes de business plan. Oui. Donc, il y a une efficacité certaine, mais qui reste très limitée parce qu'il faut avant tout qu'il y ait une tolérance. Donc les grands du marché vont chercher à avoir un effet confort au niveau de l'application de la crème, une bonne odeur, une simplicité d'application, un beau packaging. Tout ça, c'est des choses qui ont un coût aussi derrière et qui sont répercutées sur les produits à la vente. Après, l'efficacité en soi, c'est pas parce qu'on va acheter du Dior ou du Chanel en crème que on va avoir une plus belle peau.
Il y a des crèmes aussi, vous me direz si j'ai raison, c'est vous le pro, mais qui vont me correspondre à moi, qui vous correspondront pas à vous. Ça dépend aussi de notre peau.
Oui, donc c'est pour ça que aujourd'hui, ce qui s'est développé, excusez-moi juste une petite seconde. Excusez-moi. Oui, c'est bien. Je suis désolé. Je suis à vous tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Ce qui s'est développé aujourd'hui en médecine esthétique,
les crèmes personnalisées.
Et en dermatologie et tout ça, c'est la mise au point en fait de sérums personnalisés. C'est-à-dire qu'en fait le sérum, l'avantage par rapport à la crème, c'est que c'est des micro-particules qui ont tendance à beaucoup plus pénétrer en fait les couches superficielles de la peau et d'avoir un peu plus d'efficacité. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter de façon vraiment personnelle, en fonction du temps, en fonction de la saisonnalité, en fonction des besoins du patient, en fonction de ce qu'on voit nous au niveau du cabinet, en fait faire un vrai diagnostic de peau et d'aller sur ça en fait proposer une formulation sur mesure avec des actifs qu'on va pouvoir doser de façon beaucoup plus importante que ce qu'on va trouver
par rapport au besoin de la peau. Vous faites ça docteur en cabinet?
Oui, en fait, il y a un laboratoire français qui a développé ça, ça s'appelle Univers Skin.
Il y a Ioma aussi qui fait ça, hein, je crois.
Ouais, il y a Ioma. Alors ça, je crois que c'est plus on va dire paramédical et parapharmacie. Mais le médical, à ma connaissance, c'est essentiellement Univers Skin, ce laboratoire français, c'est le laboratoire Chroma, qui a développé ça. En fait, on a la possibilité de faire plus de 1900 formules différentes. Donc, on a vraiment la possibilité d'aller améliorer la qualité de la peau quand on fait de l'acné actif, quand on a des rougeurs post-inflammatoires après des boutons, quand on a une peau qui est un petit peu trop grasse. Enfin, il y a beaucoup de voies de traitement et surtout de l'anti-âge avec nos actifs qu'on va mettre dans les peelings qui vont être en fait appliqués au quotidien sur la peau pour avoir cet effet antioxydant, anti-âge.
D'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut venir sans faire d'injection, on peut se faire faire une crème personnalisée. Vous disiez Chanel, Dior, j'ai testé là dernièrement une crème des produits, pas seulement des crèmes et des sérums, mais c'est MZ Skin, c'est docteur Mariam Zamani, c'est américain, et je trouve que ce sont de très bons produits si vous avez l'occasion. Si vous avez l'occasion d'en tester, franchement, voilà. Donc vous connaissez, docteur. Voilà, c'est bien.
Oui, je connais. C'est de très bons produits qui se développent. Du patient est pour une vraie satisfaction après, avant tout, c'est d'être bien conseillé. Voilà.
Exactement, mais franchement, moi j'ai testé ça, et notamment l'Hydra Lift Golden Facial, et ça vous donne un teint, c'est bluffant, quoi, vraiment. C'est vraiment bluffant, je vous invite vraiment à tester parce que voilà, c'est bluffant. On va continuer à parler, on parlait des crèmes, des sérums. La mésothérapie, peut-être, ça pénètre plus avec la mésothérapie, docteur.
Alors. On va dire qu'on est sur une étape un petit peu plus profonde que ce que vont faire les sérums, c'est-à-dire que là il y a des micro-injections très superficielles. Tout à l'heure je parlais de micro-puits, c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire que de façon non douloureuse, on va faire des piqûres très 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 superficielles à l'aide généralement d'un petit pistolet de mésothérapie, donc c'est des piqûres qui sont vraiment tout à fait supportables, ça fait plus de bruit que de douleur, vraiment il n'y a pas du tout de douleur. Et l'idée c'est en fait d'injecter un cocktail d'acide hyaluronique non réticulé, c'est-à-dire un acide hyaluronique très très fin qui va avoir pour rôle en fait de faire une éponge à eau, en gros d'attirer un maximum d'eau sous la peau pour lui donner le plus de vitalité et d'hydratation, associé à ça des antioxydants, des acides aminés et plusieurs vitamines en fait. On appelle ça une biorevitalisation et l'idée c'est de faire un protocole de 4 à 5 séances espacées de 15 jours pour aller stimuler au maximum le derme et l'hypoderme pour avoir un éclat de façon durable.
C'est Skin Booster, c'est ça qu'on appelle Skin Booster?
Non.
Ah, c'est autre chose.
Les Skin Booster, c'est un petit peu plus profond. On est vraiment par étage au niveau de la peau. Et donc là, ce que je vous disais, c'est que la mésothérapie, c'est très superficiel. Le Skin Booster, on va plutôt s'en servir pour les rides de type fripées au niveau des joues. C'est la zone quand on commence un petit peu, quand on fait un sourire appliqué sur les côtés et que on veut surtout pas alourdir le visage, que les crèmes hydratantes ne sont pas suffisantes, on va traiter avec le Skin Booster qui est en fait là cette fois un acide hyaluronique un tout petit peu réticulé, mais avec des molécules qui sont très 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 fines, et donc l'idée c'est surtout pas de créer de volume au niveau des joues, mais de faire un appel d'eau plus profond que la mésothérapie. Et là c'est des protocoles qui sont beaucoup plus espacés puisqu'on fait une séance tous les 6 mois en moyenne par rapport à la mésothérapie qu'on va devoir rapprocher.
D'accord. Ça coûte combien un Skin Booster?
Alors ça, vous allez avoir tous les types de prix dans les cabinets. Ça va dépendre des prestations de chaque médecin. Moi, au cabinet, un Skin Booster pour une ampoule, on est autour de 200 €. Et généralement, le protocole, c'est de faire une ampoule par côté lors de chaque séance.
D'accord. 04 95 32 22 22 pour poser vos questions au docteur James Kinasi. On parle médecine esthétique aujourd'hui dans les experts. Ou bien sûr, vous continuez sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
wandering the time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same.
When You Loved sur RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Loudz.
J'ai plein de questions encore qui arrivent, il va falloir qu'on refasse une émission. On a une question là qui nous est arrivée et qui nous demande qu'est-ce qui est le plus efficace sur les tâches dues au soleil, nos corses.
Alors en fait, tout va dépendre de la peau, mais sur une peau claire avec des taches brunes, le plus efficace, ça va être de traiter soit au laser avec donc un laser qu'on appelle le laser à Alexandrite, qui va permettre d'aller directement faire sauter la tache et laisser une petite route pour une petite semaine et nécessiter une petite protection solaire, soit avec le dermatologue où on va brûler un petit peu à l'azote comme on brûlait des verrues à l'époque. C'est une histoire de cryogénie qui va permettre en fait d'aller faire pareil brûler la petite tache pour que la peau se répare en dessous. Ça c'est pour les peaux claires, et pour les peaux plus foncées, on préconisera plutôt un éclaircissement plutôt qu'une disparition des taches. Et là on est sur des peelings, les fameux peelings TCA dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des peelings un petit peu éclaircissants.
Donc les peelings moyens, c'est ça?
Exactement.
Voilà, petit peeling moyen et laser. On peut combiner aussi les deux?
Oui, bien sûr.
Voilà. D'autres choses aussi, hein, on a des questions sur les paupières. Est-ce qu'on peut traiter les paupières sans chirurgie aujourd'hui, docteur?
Alors, il y a une technique qui s'est développée en Italie il y a une douzaine d'années maintenant, qui s'appelle le plexer. C'est une technique où, en fait, on va faire rétracter la peau sans chirurgie, au niveau de la paupière supérieure essentiellement, quand on a des plis apparentaires. C'est pas une question de relâchement congénital sur des paupières qui sont basses, insérées. C'est vraiment quand on a ce qu'on appelle un pli comme une casquette, où la peau a du mal à se rétracter de façon naturelle. Et donc là, en fait, on crée des micro-brûlures très superficielle avec un micro laser, et l'idée en fait c'est de comme quand c'est l'image qu'on peut faire visualiser aux patients, c'est quand on met une viande de façon vulgaire sur un feu, elle a une certaine taille, et quand elle a cuit, elle a une autre taille, elle a réduit. Donc c'est la même chose en fait, là on est sur ce petit laser qui va permettre de faire rétracter la peau, parce qu'on va créer des brûlures de proche en proche mais de façon très superficielle pour faire rétracter la peau d'une séance à l'autre. Et en gros, au bout de 4 séances, on a perdu peut-être 1 millimètre millimètres de plis au niveau des paupières superficielles.
Et on passe pas par la case chirurgie. On l'a bien compris.
On la retarde. On va dire qu'on la retarde.
Retarde. Oui, parce qu'on a beaucoup de j'ai l'impression qu'on a beaucoup de femmes qui ont pas envie de passer sur le billard. J'ai un double menton, me dit Nathalie. Que puis-je faire?
Alors, la première chose, c'est de se faire examiner, parce que double menton, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être du relâchement cutané, ça peut être du relâchement cutané associé à un excès de gras. En gros, pourquoi se faire examiner avant de parler de traitement, c'est que le double menton, il peut être congénital, c'est-à-dire que si on a une mâchoire qui s'est pas bien développée lors de la croissance et qu'on a un menton qui est un petit peu en recul, on aura un double menton toute sa vie, à moins de faire une chirurgie lourde qu'on appelle maxillofaciale, où on va ravancer la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire. Ça, c'est pour tirer sur le menton. Si, par contre, il y a un excès de poids et qu'il y a eu un excès de poids, qu'on a perdu le poids nécessaire et qu'il nous reste ce double menton et qu'il n'y a pas de relâchement cutané important au niveau de la peau et qu'on reste sur un amas graisseux localisé sur le double menton, là, on peut parler de traitement non invasif, type cryolipolyse, qui va permettre de faire réduire un petit peu cette masse graisseuse. En gros, on va aller cristalliser la graisse par le froid. Et on va induire un message chimique de mort cellulaire au niveau des cellules graisseuses qui va nous permettre de perdre environ 20% de la masse graisseuse traitée sur cette zone, comme pour d'autres zones type abdomen, poignée d'amour, etc., qu'on peut traiter sur le corps. C'est des techniques qui permettent en fait d'éviter une petite lipoaspiration.
D'accord, mais sur le relâchement cutané du coup. Hein.
Alors, quand on est plutôt sur le relâchement cutané, c'est pour ça qu'il faut se faire examiner. Si c'est du relâchement cutané, certains vont proposer des techniques telles que des lasers, telles que des poses de fil tenseur ou la chirurgie.
Fil tenseur, vous n'aimez pas, vous, hein?
Moi, je suis pas très fan des fil tenseurs parce que j'ai vu des suites un petit peu lourdes lors de mes formations et j'en suis pas très satisfait. Donc je préconise pas ça au cabinet. Maintenant, je pense qu'il y a de très bons praticiens qui font ça de façon remarquable, mais je le préconise pas au cabinet. Après, je pense que quand il y a un relâchement trop important, il faut connaître ses limites et on est plutôt dans le côté chirurgical.
D'accord.
On oriente.
On a une auditrice qui a une question.
Gisèle, RCFM, les experts, 04 95 32 22 22.
Gisèle, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous voulez nous parler des paupières, vous, Gisèle?
Eh oui, oui, moi je parle de paupières, parce que figurez-vous que j'ai des paupières qui descendent.
D'accord.
Et le docteur, l'ophtalmo voulait me les faire remonter, parce que ça me gêne pour conduire, parce que j'ai du diabète, mais je n'en ai pas dans les yeux. Et le cardiologue ne veut pas qu'on me fasse d'anesthésie. Et j'ai entendu qu'il parle de l'Italie, qu'on fait des choses en Italie.
Alors, non, il disait qu'il y a une technique italienne, docteur, je vous laisse répondre. Hein.
Oui, alors cette technique, bonjour Gisèle. Cette technique, elle vient d'Italie, mais aujourd'hui elle est présente en France. Ça s'appelle, vous pouvez trouver sur Internet, ça s'appelle blépharoplastie médicale.
Non, je ne connais pas Internet, et bon, après, si jamais Marie ou je ne sais pas qui c'est à l'antenne, elle me donnera. Hein.
C'est Christina.
Christina, je ne la connais pas alors, Christina.
Donc ça s'appelle le plexaire ou la blépharoplastie médicale. C'est une technique en fait qui va chercher à rétracter la peau, mais il faut avant tout voir le degré de relâchement cutané, parce que si le relâchement cutané est aussi important que ce que vous décrivez en disant que ça vous empêche de conduire, donc ça veut dire que ça empiète vraiment sur votre vision, je pense qu'on est à un stade un petit peu tardif pour ce type de technique. Donc après vous savez qu'aujourd'hui, et ça certains ophtalmos et chirurgiens plasticiens font ça, en tout cas moi à Paris j'en connais quelques-uns qui font ça, qui font des blépharoplasties chirurgicales sans passer par l'anesthésie générale, voilà. Qui est des anesthésies locales.
Ils ne veulent pas que, parce que je vais le faire le 10, figurez-vous, le 10 octobre je vais le faire, j'ai été au cardiologue et le cardiologue a dit pas question d'anesthésie.
Alors, faites une anesthésie locale, vous pouvez. En fait, il ne veut pas que vous soyez endormi.
Non, il ne veut pas. Parce qu'il dit que je risquais de faire un infarctus pendant la petite opération, quoi.
D'accord.
Oui, mais si c'est sous local, je pense qu'il n'y aura pas de souci.
Essayez de voir un petit peu, peut-être que l'ophtalmo ici ne fait pas cette technique hein, de blépharoplastie, donc peut-être vous laissez vos coordonnées peut-être au standard. Voilà, ou peut-être...
Il est dans mes coordonnées.
Ou peut-être, docteur, elle peut appeler à votre cabinet que vous pouviez lui...
Oui.
Hein. Alors, je donnerai les coordonnées du cabinet du docteur Skinazi, vous les trouvez sur Internet, au standard, et comme ça, il vous orientera vers des personnes, enfin, vous ne le faites pas, vous, ça, hein, docteur.
Non, pas du tout.
Voilà,
pas
il vous orientera vers quelqu'un qui pourra vous renseigner, Gisèle.
Oui, volontiers, parce que ça m'embête. Hein.
Bon, eh ben voilà, bon, on fait ça, alors.
Dis-le, monsieur, parce que demain, le pire, c'est le matin.
Eh oui, non, mais je me doute.
Dans l'après-midi, ça va un peu mieux, voyez.
Mais
le pire, c'est le matin.
Eh oui, je me doute, c'est embêtant. Mais on va vous restez avec Nathalie en antenne et puis on vous donne tout ça. D'accord, merci, on est en fin d'émission. Enfants. Merci beaucoup, Gisèle, merci.
Au revoir, Gisèle.
Merci beaucoup, on est en fin d'émission. Merci beaucoup docteur Skinazi d'avoir été avec nous. On a avec encore plaisir. Beaucoup de questions, mais on refera certainement une émission avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez réécouter cette émission, bien sûr, sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.